Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
La question du jour.
Notre invité, Olivia Grégoire, députée La République En Marche, vice-présidente de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Merci encore une fois d'être avec nous, Olivia Grégoire. J'imagine que la nuit a dû être assez courte parce que vous êtes évidemment aussi concert de Paris. Donc, bon, on en dit quand même un petit mot. Énorme claque.
Bien sûr, il n'y a pas de tabou.
Grosse claque, vous avez été surprise par l'ampleur de la claque.
Surprise, non. Absolument pas. Pour Paris, non. On savait très bien que cette campagne était quand même assez mal emmanchée, malgré le courage qu'a eu Agnès Buzyn d'aller jusqu'au bout. Pour le reste, je voudrais juste... moi, je suis quelqu'un qui suis assez lucide. C'est évidemment pas une réussite pour La République En Marche. Mais on l'a dit et redit, je veux quand même rajouter deux petits points. Ne mélangeons pas tout. On est sur une élection locale. Il y a des sujets locaux. Je pense vraiment que entre Perpignan, si vous voulez, et Lyon, entre Louis Alliot et la vague verte dans des grandes métropoles, c'est aussi l'équation locale qui joue. Et je trouve ça, voilà, c'est le constat. Et c'est pas pour autant qu'il va falloir changer de braquet, se renier par rapport à la politique nationale. On sort d'une élection municipale. On va pas refaire le match. On savait qu'elle serait dure pour La République En Marche. Ça fait 3 ans et demi qu'on existe. On savait que ce serait difficile. Ça l'a été. Rien de neuf sous le soleil.
Enfin, l'ampleur de la claque, quand même.
Non, je crois pas
qu'on puisse... Parce que même à Lyon, Grégory Doucet, donc le
Mais je crois que c'est une claque collective. Je crois que c'est une claque collective aussi pour les partis...
Le premier des macronistes.
Oui, mais ce qui est important, c'est que c'est une claque collective. Pardon, mais LR, malgré ce qu'ils essayent de dire sur les plateaux, les Républicains ne s'en sortent pas sublimement bien. Qu'est-ce qu'on voit, Edwige Chevrillon? On voit que les Français veulent localement verdir les politiques au niveau local. On voit aussi autre chose, pardonnez-moi, c'est qu'alors qu'on nous dit... Et je crois que c'est vrai, il faut de la proximité, on veut s'investir localement, on veut donner notre avis dans la vie quotidienne. Bah moi, je vois que jamais on a eu une aussi faible participation. Et ça m'interroge, pas tant pour nous, ça m'interroge. Hier soir, je les ai regardés, ces chiffres, depuis 1989. C'est terrifiant, je vais vous dire. L'abstention aujourd'hui, c'est terrifiant. Ça fait 3 ans, et j'en termine, qu'on nous dit au Parlement, à chaque fois qu'un LAREM s'exprime, que nous avons été très mal élus. 75% de participation à la présidentielle. Vous voyez les chiffres de la participation aujourd'hui.
Là, c'est l'inverse.
C'est l'inverse. Donc, on a aujourd'hui tous, les Verts aussi, un sujet de défiance politique.
Oui, mais alors, pendant que nous parlons, Olivia Grégoire, il y a le président de la République qui s'exprime, parce qu'il reçoit à l'Élysée, le timing est bien choisi, on le disait, les 150 citoyens qui ont participé à cette convention citoyenne pour le climat. Il dit, le temps est venu de faire. J'ai envie de dire, c'est presque un peu trop tard, quoi. Il lui reste 12 mois, il pouvait le faire éventuellement avant.
Oui, non. Et d'ailleurs, je crois qu'on l'a fait.
C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Ah bah oui, mais le temps est venu de faire.
L'avantage, c'est que moi, je suis pas dans l'exécutif, je suis au Parlement, donc j'ai encore ma liberté de parole. Nous avons fait, et je ne laisserai pas dire qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait dans l'incantation, on n'a pas fait dans le spectacle, on a fait dans les petits gestes du quotidien, le bio dans les cantines, la fin du plastique à usage unique, les centrales à charbon, la prime de voiture électrique. Alors oui, c'est pas un effet waouh comme certains l'attendent. Mais ça se construit dans une écologie du quotidien et je ne renie rien de ce que nous avons fait. Peut-être faut-il aller plus loin. On va voir ce qui va ressortir de la Convention citoyenne. Il est question qu'on embarque pas mal de mesures.
Oui. Les 110 km/h, on va les embarquer, comme vous dites.
Il est question qu'on embarque pas mal de mesures et très certainement qu'on mette à contribution les Français pour donner leur avis sur ces sujets-là. C'est ce que j'ai cru comprendre.
Oui, mais un référendum, on va essayer de faire ça.
Mais qui a eu cette idée, pardonnez-moi quand même. On peut reprocher beaucoup de choses au président et à l'exécutif. Qui a eu cette idée de lancer cette convention citoyenne? Qui a eu cette idée d'essayer de réinjecter un peu d'air dans le dialogue démocratique? On ne peut pas tout lui reprocher.
Fermeture de Fessenheim, vous êtes pour, vous êtes sèche-cache, Olivia Grégoire, c'est pour ça qu'on vous invite souvent ici à BFM Business. Moi, vous dites ce que vous pensez, fermeture de Fessenheim, c'est une bonne idée. De l'autre côté, les Allemands, ils ont fait une centrale à charbon, quoi.
Oui, moi je suis inquiète, je vais vous dire, de la Chine à l'Allemagne, du retour en force du charbon. Et je reste quand même très attachée, et je l'assume, au nucléaire, dont il faut quand même qu'on me démontre encore que ça n'est pas une énergie propre.
Alors, il y a beaucoup de sujets à voir avec vous. On a vu que, d'abord, vous avez fait une proposition pour étendre la participation, notamment aux petites PME. On a vu aussi la réaction du président du MEDEF, mais pas seulement, aussi d'autres chefs d'entreprise en disant, mais nous, la participation, d'abord, c'est taxé, on n'aime pas, c'est beaucoup plus compliqué, donc on préfère l'intéressement qu'à la participation, donc peut-être que vous allez leur répondre. Et puis là, vous avez proposé, dans le cadre du PLF 3, du projet de loi de finances, le budget de crise, hein, c'est versus version 3. Avant la version 4, un soutien aux indépendants. Oui, c'est pas moi qui le dis, donc ça sert à rien presque de voter ce PLF 3.
Si, juste, je vais vous dire pourquoi.
Oui, mais juste là, il va avoir un nouveau, il va avoir un remaniement, un nouveau gouvernement. C'est donc possible. Ce projet de loi, c'est possible, dites-vous avec un sourire pour ceux qui vous écoutent et qui ne vous regardent pas. Bah, donc il y aura pas de, ça sert, vous n'allez pas le voter ce projet de loi de finances.
Écoutez, on est lundi, moi je démarre la semaine avec vous. Il est possible que ça bouge cette semaine, auquel cas, juridiquement, constitutionnellement, le Parlement n'irait pas, et je parle évidemment au conditionnel, au bout de l'examen du PLFR 3, si jamais le gouvernement mettait sa démission, par exemple jeudi ou vendredi. Ça fait partie des possibles. En attendant, à partir de 16h30, 17h, on sera en discussion générale et on lance le PLFR 3, quitte à se faire arrêter à un moment ou à un autre. En attendant, on travaille.
Ouais. Juste, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas voté? Comment ça va se passer après?
S'il n'était pas voté...
Parce que pour cause de remaniement, oui.
Oui, mais c'est un texte dont j'imagine qu'il serait repris par le futur qui pourrait être le même d'ailleurs ministre et qui serait poursuivi au banc. Vous savez, l'enjeu de ce PLFR 3 est assez simple, vous l'avez dit, c'est un PLFR 3 pivot. Oui. C'est sortir de l'urgence parce que quoi qu'on en dise, on n'en est pas sorti, avec des plans sectoriels, avec un gros soutien aux indépendants, avec des mesures pour les plus fragiles, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Et je voudrais quand même le rappeler, l'aide exceptionnelle de solidarité pour 4 millions de foyers, 4,5 milliards aussi pour les collectivités locales. On a un PLFR 3 qui est vraiment dans l'urgence. On en aura un en septembre sur la relance, donc quoi qu'il advienne, je dirais cette semaine, on est au travail, peu importe les visages.
Ouais. Mais en même temps...
Mais c'est une possibilité.
Ouais. Et plan de relance, ça sera plutôt pour la rentrée.
Je pense.
Pas trop tard. Enfin, il y a tout le débat à savoir si c'est un peu. Enfin, c'est en disant que c'est presque maintenant qu'il faut relancer pour que ça soit en septembre.
Il y a déjà, notamment au plan sectoriel, beaucoup de choses qui relèvent de la relance dans le PLFR 3. Ouais. Je pense et je crois savoir que aussi bien Bruno Le Maire que le président de la République écoutent aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'économistes, beaucoup de théoriciens qui ont des visions assez différentes. On ne va pas faire un plan de relance en 10 jours sans avoir consulté. Donc je trouverais ça de bonne aloi que ça arrive.
Là, vous avez eu le temps de consulter, là, quand même, là, depuis temps.
Oui, mais c'est drôle, vous voyez le décalage du temps, je vous le dis, parce que vous maîtrisez vos sujets. Cette semaine, on va continuer à abonder, Edwige Chebrion, le fonds de solidarité qui aide nos artisans et nos commerçants. On rajoute plus d'un milliard sur ce fonds. On est encore dans l'urgence. Voilà. Et je veux bien qu'on parle de relance, mais si il faut d'abord sortir de l'urgence, c'est aussi l'objet de ce PLFR 3, donner un peu de mou aux indépendants pour qu'ils puissent retirer par exemple une partie de leur épargne
sur
le Madelin.
Oui, c'est ce que vous avez proposé. Mais est-ce qu'il y a une chance qu'il passe cet amendement? Pas beaucoup, non?
Ça fait 2 mois et demi, 3 mois qu'on y travaille ardemment. Et je suis une femme déterminée, j'ai bon espoir qu'il passe et que le gouvernement nous entende.
Donc expliquez-nous, c'est effectivement de permettre aux indépendants...
De permettre aux indépendants qui cotisent sur des plans d'épargne, et notamment le Madelin. Il ne s'agit pas de détruire là non plus ce qu'on a fait. On ne va pas libérer toute l'épargne salariale des indépendants. L'idée, c'est de parvenir à leur dire qu'ils peuvent aller piocher, je dirais, dans l'épargne Madelin, qui est en moyenne, en général, les encours, c'est 20 à 30 000 euros sur les contrats Madelin, et donc qu'ils puissent avoir accès à une partie de leur argent, pardonnez-moi, c'est l'ancienne indépendante qui parle, mais c'est aussi l'argent qu'ils y ont mis à hauteur d'une somme qui leur permette de vivre et de sortir un peu de la crise aussi, donc pour plusieurs milliers d'euros et pas pour un montant trop faible. Donc on essaye, aux alentours de 8 000, 10 000 euros, de pousser le gouvernement.
Et sans fiscalité? Défiscaliser.
Oui. C'est comme la participation, quand vous dites c'est compliqué.
Je sais pas, moi j'ai écouté chez l'entreprise. On ne peut pas dire qu'ils sautent de joie sur cette perspective.
Alors, moi, il y a une chose dans le développement durable, il y a de l'écologie, mais il y a aussi du social. Et je crois que la crise, et on est plusieurs à le penser, c'est un moment où il faut penser modèle. Et modèle, partage de la valeur, ça fait partie des sujets qu'il va falloir adresser. C'est peut-être pas tout de suite, mais c'est très certainement dans les prochains mois. On doit mieux partager la valeur qui est créée dans les entreprises, pas uniquement pour des raisons d'argent, mais aussi pour les raisons de pouvoir d'achat, mais aussi parce qu'il faut renforcer le lien entre les salariés et les entreprises. Mmh. On a bien vu que les salariés étaient hyper responsables en crise et qu'ils partagent le risque aujourd'hui de l'entreprise.
Mais la participation, c'est le général de Gaulle qui l'a lancé. J'ai l'impression que chaque fois qu'on a besoin du général de Gaulle, on parle de participation.
Mais non, mais on peut l'appeler comme vous voulez. Si vous voulez, moi je l'appelle la prime Chevrillon ou la prime d'association.
La prime Grégoire, tant qu'à faire.
Vraiment pas. Comment on fait pour avoir un peu d'allonge et pour avoir plus de pouvoir d'achat? Un chiffre, Edwige Chevrillon. Et il le sait, Geoffroy Roux de Bézieux, et il y adhère d'ailleurs, il le sait. Participation, intéressement, actionnariat salarié. Mmh. Quand vous mélangez tout ça, ces trois dispositifs, pour les bénéficiaires, c'est les chiffres de 2018, c'est 2500 euros de plus par an. Ça fait un 13e mois et demi. Je vous rappelle que le salaire médian est de 1797 euros. Donc on ne parle pas de petites primes comme ça de 100 ou 200 euros. Je vous parle d'un 13e mois et demi. Donc la question, c'est comment on fait? Comment on fait avec les partenaires sociaux? Je vous rassure, on ne peut pas avancer seul. Ça n'est pas à l'exécutif de changer une formule ou de changer tout ça. Mais je crois que les partenaires sociaux ont compris qu'il est aussi dans leur intérêt de mieux associer, on voit d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui le font, les salariés à la performance, à la croissance de l'entreprise. S'ils préfèrent l'intéressement, on fera de l'intéressement. Moi, je trouve que la participation, c'est la première marche, elle est simple. Vous avez un bénéfice net comptable, on la partage. Et c'est assez simple.
Qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces 12 prochains mois, en conclusion, Olivia Grégoire?
Il faut
Parce que ça va très vite. Hein.
Ça va monstrueusement vite.
Ouais. Il faut... On continue les réformes ou on arrête?
Il faut continuer les réformes, à mon sens. Il faut surtout... ne pas se renier, ne pas tomber dans les pièges qui nous seront tendus dès cet après-midi, dès demain. Vous voyez, le PLFR 3 n'est certainement pas le lieu de discussion de l'ISF ou du crédit impôt recherche ou du CICE. On est dans le temps de l'urgence. On n'a pas à rougir de ce qu'on a fait en matière de fiscalité du capital. Il nous reste, 12 mois pour poursuivre l'effort, aller plus loin en matière de pouvoir d'achat et mieux ancrer l'écologie dans nos décisions financières.
Oui. Donc, on voit là le président, il y a beaucoup d'annonces qu'il a l'air de proposer. Mais j'ai pas le détail, hein. Je suis désolée, c'est en train de se passer là. En revanche, il dit qu'il faut placer l'écologie au cœur de l'économie.
Oui.
Ça se traduit comment?
Ça se traduit par exemple dans des propositions que des gens comme moi essayent de porter depuis plusieurs mois, et notamment auprès du président de la République. Je crois qu'il faut un changement de modèle. Il ne faut pas uniquement déverser à coups de milliards de l'argent pour verdir. Sinon, les mêmes causes auront les mêmes effets.
C'est ce qu'on a fait dans l'aérien.
C'est ce qu'on a fait depuis 20 ans. Pas que en PLFR 2. Là, il faut soutenir l'aérien, sinon il va s'écraser, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est un moment, et là-dessus, vous voyez, on est nombreux à être d'accord. C'est un moment où il faut profiter de ça pour changer le paradigme. Les entreprises, par exemple. J'étais venu la dernière fois chez vous, et j'en termine, sur les impôts de production. On avait parlé impôts de production. On sait qu'il va y avoir une trajectoire de baisse. C'est le moment. On met en place une trajectoire de baisse d'impôts de production avec des engagements des entreprises en matière environnementale.
Mais elle démarre quand et avec quelle pente, hein,
Elle sera très certainement en PLF, rendez-vous le 23 ou 24 septembre. Elle sera très certainement écrite.
Quoi, 10 milliards
dans le prochain. J'ai pas la trajectoire, je suis pas ministre et c'est un sujet qui est aujourd'hui entre les mains.
Non, mais vous êtes député de la République en Marche, donc vous avez
la trajectoire. Déjà, quel impôt de production? Première question, c'est 3S, CFE, on n'est pas tous d'accord. Et une trajectoire significative qui se compterait en milliards. Et ça va être là, fin septembre. Moi, je dis, là, c'est l'occasion de changer le modèle et d'engager les entreprises et les collectivités dans plus d'écologie, plus de social.
Merci beaucoup Olivia Grégoire, et puis on verra qui c'est un remaniement qui pourrait vous toucher. On verra ça en tous les cas, c'est fin de semaine a priori. Olivia Grégoire, merci beaucoup d'avoir été
merci
avec nous,
vous.
Donc vice-présidente de la commission des finances et donc qui défend ses amendements. On l'a compris dans un instant, tiens, on parlera d'édition, c'est la nouvelle patronne des éditions Jean-Claude Lattès, l'édition qui a connu un véritable naufrage pendant le confinement. Est-ce que ça redémarre avec l'été? On voit ça tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
C'est un secteur, on sait, qui a été très sinistré pendant la crise. Et pour cause, les librairies étaient fermées. Et puis surtout qu'il n'y avait plus de chaîne d'approvisionnement. C'est tout le marché de l'édition. Je reçois Véronique Cardy, qui est la nouvelle présidente des éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous remplacez Isabelle Lafon, qu'on a reçue ici, parce qu'elle avait des best-sellers avec Dan Brown et d'autres. Ce marché de l'édition, je le disais, a vraiment été frappé de plein fouet. Grosso modo, quoi, le marché de l'édition, c'est un peu plus de 200 milliards d'euros quand même. Donc ça pèse lourd.
Exactement.
Vous avez une idée de l'impact que ça a eu sur ce premier semestre de votre métier?
Alors, sur le marché au global, c'est vrai qu'on est sur des baisses à moins 80% pour certains éditeurs. On estime à la fin de l'année que ça pourra être entre moins 20 et moins 40% parce qu'en fait, la reprise est assez dynamique. Les premières semaines de déconfinement ont été très bonnes en librairie, donc peut-être que l'été va permettre de compenser un petit peu cette baisse qui a été catastrophique, bien sûr, pour nous pendant le confinement.
Est-ce que vous estimez que les librairies ont... Bah, finalement, c'était un peu injuste de leur demander de tout fermer et de réouvrir très lentement.
injuste, c'était surtout très frustrant pour nous. Je crois que ça a été très frustrant pour les Français, en fait, puisque c'est vrai que c'était ce paradoxe total d'avoir du temps pour se consacrer à ce loisir que d'habitude on n'a pas forcément le temps d'éprouver, et de ne pas pouvoir s'approvisionner en lecture. En même temps, les Français, on le voit bien, ont quand même relu des classiques, sont allés trouver, nous par exemple, chez Jean-Claude Lattès, La Sentence de John Grisham a été un des cartons du confinement, parce que il faut comprendre aussi que pendant le confinement, la grande distribution permettait de s'approvisionner en livres, puisque les librairies et les librairies indépendantes et les Fnac et les Cultura étaient fermées, mais par exemple dans les carrefours,
les Intermarchés,
voilà. Donc des auteurs au profil très grand public, comme c'est le cas de John Grisham chez nous, étaient disponibles dans ces circuits de distribution et nous ont donc permis de continuer à les vendre.
Mais vous aviez des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnaient ?
Dans notre centre de distribution, effectivement, il y avait sur la base du volontariat un certain nombre de personnes présentes qui permettaient d'approvisionner.
Ouais. On voit bien. Donc ça a complètement changé, un peu bousculé les habitudes de lecture. C'est un peu tout le danger pour les librairies, c'est-à-dire qu'il faut que les Français retrouvent le chemin des librairies et n'achètent pas qu'en grande distribution. Vous êtes d'accord avec moi ?
Tout à fait, mais
qu'est-ce que vous faites, les éditeurs, pour soutenir les librairies ?
Alors en fait, nous, ça a été passionnant cette période, puisqu'il a fallu totalement réinventer nos manières de parler du livre, notre manière de créer du collectif sans pouvoir se rassembler physiquement. Donc c'est vrai qu'on a lancé par exemple aux éditions Le Masque, puisque c'est Jean-Claude Lattès, Le Masque aussi, il y a ce label du Masque, qui
très
est notamment
connu.
L'éditeur d'Agatha Christie, littérature policière, etc.
Célèbre couverture jaune, avec un masque noir.
Exactement, et avec tout un renouveau de l'offre en français avec l'éditrice Violaine Chivot, qui a lancé avec Lucie Cobel, attachée de presse des éditions du Masque, des podcasts, conversations dans le noir. On a organisé des lives sur Instagram pour parler avec nos auteurs, des ateliers d'éloquence avec Bertrand Perrier, qui est un de nos auteurs phares, vous savez, l'avocat qui a écrit La parole est un sport de combat. Donc heureusement, je suis entourée d'une équipe super créative, innovante, qui nous a permis d'expérimenter, de réinventer un peu nos manières de parler du livre. Et là, depuis le déconfinement, on voit que les lecteurs sont au rendez-vous. Nous, on a par exemple sorti le premier roman d'Olivia Ruiz, La commode au tiroir de couleurs, qui a fait un démarrage exceptionnel dans les ventes. Le duo star, les Giacometti Ravenne, qui sont des auteurs de thriller, là, dans une veine historique, ils ont fait leur meilleur démarrage. Adèle Bréhaus, La saga de l'été, Frangine, de la même manière, c'est une auteure qui n'avait jamais vendu autant de livres au démarrage. Donc finalement, on voit que...
Ça démarre bien.
Exactement. Ouais. Et que d'avoir éprouvé cette frustration avec la fermeture des librairies, finalement, ça a peut-être redonné de l'envie également autour du livre, ce qui est bienvenu avant l'été.
Oui, parce que en plus, c'était d'autant plus difficile que les best-sellers, forcément, qui portent toujours le genre Guillaume Musso, Joël Dickers, etc., c'est ça qui porte le marché de l'édition. Hein, donc,
C'est vrai qu'il y a eu aussi ce phénomène qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que nous autres éditeurs, on a dû totalement revoir notre programme de parution.
Okay,
donc en réduisant drastiquement, chez Jean-Claude Lattès,
on a
réduit de 75% notre programmation.
75%.
C'est-à-dire dans les 40 titres qu'on devait publier de mars à juin, on n'en a publié que 10. L'idée étant, pour accompagner les libraires, de ne pas les noyer sous effectivement juste un décalage de titres et le même nombre de titres. Donc de réduire la production, mais tout en gardant des enjeux de nature à faire venir les gens en magasin. D'où Patricia Cornwell qu'on vient de voir passer, Adèle Bréhaux, le premier roman d'Olivia Ruiz, etc., qui sont donc les livres porteurs.
Oui, mais parce que justement, j'allais y venir, parce que je crois que c'est un phénomène qu'on interroge pas mal de patrons d'édition. Même les livres, les pauvres auteurs qui ont travaillé, ça se trouve, des années sur un livre, arrive la crise du Covid, avec les conséquences incroyables que ça a eues, même évidemment encore maintenant. Donc il y a des tas de livres qui sont du monde d'avant, et qui ne vont pas rencontrer un lectorat qui, lui, est déjà passé à autre chose. Donc le pilon dans le marché de l'édition, il a dû beaucoup fonctionner.
Alors, là je parle pour ce que je connais, c'est-à-dire chez nous, on n'a pas supprimé de parution, on en a décalé. Ouais. Par exemple, en littérature étrangère, c'était plus facile de décaler sur 2021. On a fait le choix aussi de décaler certains romans français. Et là, c'est forcément tragique pour les auteurs qui voient décaler sa parution de 9 mois. Et sur la non-fiction, qui est là où ça pourrait être le plus daté, c'est vrai que les auteurs ont fait le choix. Par exemple, on a Laurent Alexandre qui publie un nouvel ouvrage, qui devait publier un nouvel ouvrage en avril, qui s'appelait « Jouissez jeunesse ». Donc un peu ironique au moment d'une jeunesse confinée, qu'il a revu pour sa parution en septembre. À l'inverse, le professeur Michel Lejoyeux, qui est donc ce médecin chef du service de psychiatrie à Bichat, lui nous offre en octobre un nouvel ouvrage, Les quatre temps de la Renaissance, qui est vraiment le manuel de sortie de crise. Donc il y a aussi des ouvrages qui sont nés bien sûr de cette
Qu'est-ce que ça va changer pour vous et éditeur, cette crise? Parce que, d'abord, le livre numérique, parce que les Français sont assez en retard, mais évidemment, ils aiment bien avoir leur livre en main. Est-ce que ça fait, ça enfin je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais enfin, c'est un autre débat, mais déclencher un peu ce réflexe du livre numérique ou pas?
Alors, les ventes de livres numériques ont effectivement doublé pendant le confinement, mais il n'y avait plus que... puisque Amazon a effectivement aussi dépriorisé le livre dans ses ventes, donc même Amazon n'a pas retrouvé un rythme de croisière dans la livraison de livres. Donc le livre numérique a connu un essor pendant ce confinement qui ne se prolonge pas forcément parce que c'est cette valeur refuge du livre papier, de l'objet qu'on peut offrir, à l'inverse d'un fichier, on ne va pas offrir des clés USB.
Alors, il y a un message qu'ont fait passer les libraires, c'est de dire, attendez, parce que c'est complètement une espèce d'euphorie, de shoot, de publication à chaque rentrée littéraire. Donc, il y avait déjà une petite tendance à la baisse. Là, j'imagine, on n'est plus dans une espèce de... Enfin, pas de gabegie, parce qu'il s'agit de livres, mais enfin quand même, d'orgie de livres.
Alors, on a tous réduit nos programmations, nous, en l'occurrence.
Ça, c'est une bonne chose.
Oui, c'est un sujet éternel, c'est le serpent de mer, et on a tous cette volonté de maintenir en tout cas nos productions. Nous, c'est vrai que chez La Thèse, on ne publiera que 100 titres cette année, là où les années précédentes, on était plutôt du côté de 130 et 150, donc c'est vraiment une ambition.
Les éditions Jean-Claude La Thèse, vous appartenez au groupe Hachette.
Oui.
Est-ce que il y a un message qui vous a été donné en disant...
Très clair, oui. Oui.
Très clair.
Au moment, en tout cas,
on vous
pour
a
la
dit
sortie
quoi
de crise.
Ouais.
Non, mais pour la sortie de crise, on nous a vraiment fait comprendre qu'on ne pouvait pas juste décaler deux titres, que ça n'allait pas être possible ni gérable logistiquement, et donc en fait contre-productif pour nos auteurs, parce que si les livres sont pas disponibles alors qu'on prévoit leur sortie, c'est pas. Mais sur la rentrée littéraire, c'est vrai qu'en revanche, une des questions, c'est que certains ont fait le choix de ne pas publier de premier roman, ce qui n'a pas été le nôtre chez La Thèse. On a maintenu les deux premiers romans qu'on publie à la rentrée, Mémoire de soi de Adrien Born et un premier roman, Noce de Jasmin de Ella Fekki, dans notre nouvel label de littérature dirigé par Maïr Guven, La Grenade.
C'est bien, vous faites ça bien, vous vendez bien votre maison.
L'idée c'est quand même des livres qu'on porte avec tout notre cœur. Et c'est vrai que je pense que l'ambition c'est de contenir la production, de la réduire sans renoncer à la découverte, parce que ce serait quand même dommage, et c'est là aussi où maintenir les petites maisons d'édition indépendantes est important et qu'il y a eu des aides en ce sens. C'est parce qu'il y a un moment, il ne faut pas que la réduction soit au détriment de la diversité éditoriale, de la découverte des nouvelles voies qu'on a pour ambition de faire découvrir.
Oui. Lorsque vous voyez, on me souffle ça, mais on en a déjà un peu parlé sur le livre numérique, sur CD Discount, qui lance CDiscount Librairie. Lorsque vous voyez effectivement le Amazon, les autres offres de tablettes, etc., il y aura vraiment un monde avant, un monde d'après?
Non.
Ah bon? Ah bah non, bah moi le nom il sort.
Non, voit très bien qu'en fait les comportements reviennent assez à la normale, en tout cas dans ce domaine-ci de la vie qui est la lecture, ce qui est important bien entendu. Voilà.
Merci beaucoup Véronique Cardi. Vous allez emporter quel livre pour l'été?
Alors, il faut. Qu'est-ce que je vais emporter comme livre? Forcément, moi, je connais les livres de ma production.
Non, mais donc peut-être d'autres.
Que j'ai envie d'emporter que je n'aurais pas lu? J'ai déjà lu La Femme révélée de Gaëlle Nohant, mais je l'ai déjà lu pendant le confinement.
Eh bien, tant pis, on aura la réponse plus tard. Des manuscrits. Voilà. Ah ben oui, ça, c'est important. Merci beaucoup, en tous les cas, Véronique Cardi,
merci
d'avoir porté un message positif sur l'édition en disant ça y est, ça reste quand même. Les librairies auront de quoi vendre. Merci beaucoup. Merci. Donc, les éditions Jean-Claude Lattès. Et dans un instant, c'est Isabelle Falque-Pierrotin. Je vous les ai, c'est une journée de femmes aujourd'hui, c'est le hasard. La nouvelle présidente de la nouvelle autorité, l'autorité nationale des jeux qui contrôle quasiment 80% dorénavant des jeux. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invitée, c'est Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de l'Autorité nationale des jeux. Isabelle Falque-Pierrotin, merci d'être avec nous. Première interview pour des nouvelles fonctions, pour une nouvelle autorité. Parce qu'on va rappeler, pour ceux qui avaient peut-être oublié, qu'avant il y avait l'ARJEL et puis maintenant il y a l'Autorité nationale des jeux. Vous contrôlez quand même quasiment l'ensemble de tous les jeux et paris sportifs, y compris le PMU, tout ça.
Oui. Bien sûr. Oui. Alors effectivement, c'est une nouvelle autorité qui travaille à partir du socle de l'ARJEL, mais qui est très différente dans son périmètre de l'ARJEL, puisque en gros, on multiplie le périmètre de régulation par 7.
78% maintenant, vous voyez, j'ai
78%, bien vu. Vous avez bien retenu. Et surtout des univers de jeux complètement différents entre les opérateurs de jeux en ligne, tout l'univers de la Française des Jeux, donc la Française, une sorte de géant, 2500 personnes, 30 000 points de vente, donc déjà en soi un acteur fondamental. Ensuite, tout l'univers de l'hippisme, les hippodromes, plus de 200 hippodromes, le PMU, et puis les casinos. Alors, on partage la tutelle des casinos avec le ministère de l'Intérieur, mais il y a plus de 200 casinos en France. Donc, tout l'enjeu, finalement, de l'ANJ, de cette nouvelle autorité, c'est de trouver de la cohérence.
Oui, parce
et de
que
développer
c'est un peu des
une politique de régulation qui soit cohérente entre tous ces segments de jeu.
Oui, parce que oui, c'est comme vous dites, tous ces segments de jeux, entre les, en plus certains jeux sont contrôlés par l'État, genre PMU, enfin ou les filières, l'Euromillion, et puis en même temps il y a tous les paris en ligne. Donc c'est
alors je dirais que l'unité qu'il y a derrière, c'est le joueur.
Oui.
Le joueur, il passe de plus en plus d'un segment à l'autre, il se digitalise de plus en plus. Et effectivement, une des priorités de l'ANJ, c'est de trouver un équilibre entre les différentes filières. Dans les objectifs dont nous avons la charge, il y a non seulement assurer l'intégrité du jeu, lutter contre l'addiction ou lutter contre le blanchiment, mais il y a également cette idée d'équilibre économique et d'équilibre sociétal entre les différentes filières d'offres de jeu. Donc je crois que c'est un challenge qui est vraiment intéressant et qui est en plus un challenge, et c'est en cela, moi, je dirais qu'il me parle particulièrement, c'est un enjeu qui intéresse la vie quotidienne des Français.
Bah, surtout,
vous voyez,
c'est
un Français
que...
sur deux qui joue.
Il y a un Français sur deux qui joue. Oui, c'est 50 milliards le marché des jeux quand même. Si vous
les mises.
Oui, les mises.
Absolument.
C'est quand même,
c'est énorme.
C'est énorme. Et puis surtout, là pendant le confinement, voire le déconfinement, ça atteint combien? Vous avez une idée ou pas? Combien pour les jeux?
Alors, c'est plutôt moins.
Moins, d'accord.
Puisque pendant le confinement, en fait, il y a eu une sorte d'arrêt brutal. Il n'y avait plus de paris sportifs. Les courses, il n'y en a quasiment plus. Les casinos étaient fermés. Donc, pour ce qui est de l'activité en ligne, le PBJ, c'est-à-dire en fait le chiffre d'affaires du secteur, a chuté d'un quart, 24%.
Oui, parce qu'en même temps, les gens auraient eu du temps pour parier. C'est pour ça que
Et en même temps, il y a eu effectivement probablement un déplacement de ce qu'on appelle l'univers offline vers le online. Notamment sur le poker. Le poker a vu exploser son nombre de joueurs, son nombre de comptes joueurs. Son PBJ, son chiffre d'affaires, pendant la période du confinement, a été multiplié par 3.
Ah oui.
Donc, c'est énorme. Et tout ce qui est activité en ligne, effectivement, c'est bien maintenu. Toute la question va être de savoir si ces tendances sont des tendances permanentes ou simplement conjoncturelles. Et sur l'année, globalement, il y aura quand même un fort ralentissement de la croissance globale, tout secteur confondu, de l'activité de jeu.
Ouais.
L'année dernière, en 2019 par rapport à 2018, l'activité globale, le chiffre d'affaires global des jeux d'argent a augmenté de 7%. Probablement qu'en 2020, on va avoir en réalité une baisse plus ou moins importante, probablement assez importante, du fait justement de cette crise du Covid.
Est-ce que c'est un peu reparti les paris sportifs? Alors le football, pas chez nous malheureusement. Par contre les courses, il y a un tout petit peu de courses
bien
qui sont revenues. Cyril Linette,
bien sûr, vous avez reçu récemment Cyril Linette, qui vous a dit que le chiffre d'affaires du pari hippique était à peu près reconstitué à 60%. Néanmoins, le PMU annonce sur l'année une baisse de son résultat net qui est quand même relativement important. Or, vous savez que le résultat net du PMU, il alimente directement la filière hippique. Donc, ça veut dire que la filière hippique qui reçoit, je dirais, plus de 700 millions d'euros par an du PMU, va, je dirais, devoir gérer les conséquences de tout ça. Donc, il y a une réflexion à mener avec le PMU que nous allons, enfin, qui va être menée par la tutelle du PMU, à laquelle nous souhaitons être associés parce que, en réalité, ça va avoir des conséquences probablement sur le type d'offre que va offrir le PMU à ses joueurs. Qui va être important.
Oui. Tiens, j'en profite puisqu'on parle de confinement, déconfinement, c'est pour ça un peu comme l'édition, je disais, je trouve que c'est intéressant d'avoir un peu l'impact que ça a eu sur des marchés, c'est différent que le secteur de l'aéronautique, mais enfin c'est un secteur bien aussi sûr. Très important, hein. Vous avez rappelé les chiffres. Vous avez été présidente pendant longtemps de la CNIL. Comment vous expliquez l'échec de Stop Covid ? Les Français restent. Enfin, comment vous expliquez ça ?
Moi, je crois que surtout, je ne vais pas vous répondre à cette question.
Pourquoi ?
Parce que c'est une question, je dirais, qui impacte quand même l'ancienne présidente de la CNIL.
Ah oui. Donc, justement, non, que vous êtes, que
ce
vous
que
êtes.
Ce que je crois, c'est que ce qui s'est passé, c'est que à la fois le numérique nous a permis tous de tenir. Mmh. Hein, et effectivement, cette vie en ligne s'est vraiment installée et elle a permis à beaucoup de personnes de faire face dans des conditions de relative sérénité au confinement. Mais dans le même temps, elle a aussi souligné, je dirais, la dangerosité potentielle de ces outils, qui sont des outils de traçage, on le sait bien, depuis longtemps. Et par rapport à Stop Covid, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont aussi pris conscience que certes, ça pouvait améliorer le traçage de la maladie, mais ça pouvait aussi, je dirais, tracer les individus. Voyez.
Donc, je crois que... Mais de manière, on est tracé partout. Enfin,
partout, mais peut-être aussi que ce partout, il faut que les uns les autres puissent réfléchir à savoir dans quel domaine ils l'acceptent, dans quel autre domaine ils ne l'acceptent pas. Voyez. Moi, quand j'étais présidente de la CNIL, j'ai beaucoup milité pour qu'on prenne conscience de ça et qu'on fasse des choix qui soient des choix de conscience sur ces outils de traçage. Je crois qu'il est temps de le faire.
Oui, ben, on le voit bien, vous avez raison. Et juste encore un petit mot sur vos anciennes fonctions, mais parce que c'est dans l'actualité, là, Isabelle Falk-Barretin, il y a Bruxelles qui dit que le RGPD, en fait, ça fera... Donc, vous avez mis en place, hein, ça freine un peu le développement du numérique, c'est plutôt un handicap.
Alors, écoutez, si vous voulez parler de mes anciennes fonctions, parlez de la sanction de la CNIL qui a été prise à l'encontre de Google, 50 millions d'euros,
oui.
Et qui a été confortée par une décision récente du Conseil d'État. Ça montre qu'on a aussi des outils, contrairement à ce que beaucoup disent, pour mettre l'activité de ces GAFA dans les clous du cadre juridique européen.
Oui.
Est-ce que le RGPD freine ou non la croissance ? Je dirais que la question est la même sur le jeu d'argent. Sur le jeu d'argent,
oui,
comme pour le RGPD, le message que je souhaite envoyer, c'est de dire... Il est possible de construire une croissance robuste et durable. Et cette croissance robuste et durable, elle ne peut pas faire fi du joueur. Elle ne peut pas faire fi de la protection du joueur, comme le RGPD ne peut pas faire fi de la protection des données personnelles. Et en réalité, sur le moyen terme, c'est un pari gagnant. C'est un pari gagnant pour l'Europe, et je crois qu'en matière de jeux d'argent... On l'a par exemple montré en matière de paris sportifs. La France est le seul pays qui a une liste sport, c'est-à-dire une liste des compétitions qui sont admissibles pour des paris. Dans beaucoup de pays,
tout.
Vous pouvez jouer
le
en
tennis,
matière de sport sur n'importe quoi.
Oui, en Grande-Bretagne,
vous pouvez jouer
bien.
Sur des cartons jaunes, vous pouvez jouer sur la couleur des chaussettes de l'un ou de l'autre, tout.
D'Mbappé.
En France, il y a un type de pari et un type de compétition qui sont admissibles à l'offre de paris.
Ça, il faut le faire sauter.
Beaucoup de personnes disaient c'est quelque chose qui a handicapé le développement du pari sportif en France. Les chiffres montrent que ce n'est pas vrai. Le pari sportif a été multiplié par 10 dans les dernières années. Donc, si vous voulez, ça montre bien.
Mais parce qu'on venait de loin, donc si vous voulez, bon.
Bien sûr qu'on venait de loin.
Je veux dire,
les différents régulateurs européens commencent à revenir vers nous pour dire, finalement, vous avez raison, les produits les plus toxiques, les plus exotiques, sur des compétitions que personne ne connaît, sur lesquelles on n'a aucune possibilité de contrôler la qualité des résultats, c'est pas bon pour les parieurs, c'est pas bon pour les opérateurs. Donc ça, je crois que c'est une courbe d'apprentissage du secteur des jeux d'argent, qui effectivement est plus mature aujourd'hui qu'au moment où on a ouvert à la concurrence en 2010. Et moi, je commence à rencontrer mes homologues européens, je vois bien que sur la question des manipulations sportives, sur la question de l'addiction, on voit bien bien qu'il y a une préoccupation qui commence à monter.
Oui, on va revenir sur l'addiction à la dépendance, parce que dès qu'on parle de jeu, c'est sûr que c'est un point très important. Mais juste sur cette fameuse liste des paris, même si ça progresse, est-ce qu'il y a un jour ou l'autre, il ne faudra pas l'élargir?
Alors, elle est élargie régulièrement.
Ça fait partie de vos chantiers, en tant que nouvelle présidente.
Ce qui fait partie de nos chantiers, c'est de faire en sorte que cette liste soit la plus pertinente possible. Régulièrement, les opérateurs demandent, entre guillemets, de nouvelles compétitions à inscrire sur cette liste. Pendant le confinement, on a justement élargi un peu la liste pour permettre, je dirais, des paris sportifs sur de nouvelles compétitions, par exemple le foot en Biélorussie ou quelques compétitions de foot en Australie, parce que c'était des compétitions sur lesquelles on avait une fédération clairement identifiée, des résultats publics. Donc, si vous voulez, c'était pas n'importe quel pari. Je crois que la qualité du pari sportif, de la compétition et du type de pari, c'est encore une fois dans l'intérêt des joueurs. Donc, on vient d'élargir, enfin plus exactement, d'officiellement appliquer la liste des paris sportifs à la FDJ. Hein, c'est une des premières décisions qu'a prise l'ANJ dans son premier collège.
Française des Jeux, il y a beaucoup,
des Jeux. Donc je crois que, si vous voulez, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va travailler, c'est pas de remettre en cause la liste sport.
D'accord, ok. Donc on voit un peu. On en parle tout le temps, mais il y a, je crois, c'est 1 200 000 Français qui sont addicts aux Jeux, aux paris sportifs.
C'était le dernier recensement. Ouais. Et on va avoir demain les comptes rendus de la nouvelle équipe, la nouvelle étude justement sur la question de l'addiction et des joueurs problématiques. C'est probablement en croissance.
Ça serait quoi, on atteint les 2 millions
c'est... On va voir. Je leur laisse dévoiler leurs chiffres demain. Mais en tout cas, la tendance n'est pas à la décroissance.
Donc ça veut dire qu'il y en a de plus en plus.
Il y en a de plus en plus. Ouais. Et ce qui est préoccupant, c'est que le parcours d'addiction, si vous voulez, c'est un parcours qui se échelonne sur plusieurs années. On n'est pas addict du jour au lendemain. On est en plus addict lorsqu'on présente aussi des fragilités autres, psychologiques, professionnelles, individuelles, sur lesquelles se greffe l'addiction au jeu. Donc, effectivement, quand vous avez plus d'un Français sur deux qui joue et que vous avez une population de joueurs problématiques qui augmente, il est quand même temps de se poser des questions et de se doter d'un certain nombre d'outils.
Justement, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire alors ? Parce que donc on le disait, vous venez d'arriver dans cette autorité qui a dont l'ancêtre était Largel, mais avec des pouvoirs, on l'a compris, bien plus élargi, un périmètre aussi bien plus grand. Comment vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Quels sont vos chantiers ?
Alors, le chantier de l'addiction est un chantier prioritaire.
Oui, ça, j'imagine.
Compte tenu justement de tous ces éléments. Pour ce chantier, l'ANJ a des pouvoirs renforcés par rapport à l'ARGEL, notamment sur la publicité. Sur la publicité, l'ANJ va approuver annuellement les programmes publicitaires, les campagnes de communication des opérateurs, et par ailleurs peut interdire une publicité qui serait trop incitative au jeu. Évidemment, c'est un peu l'arme de dernier recours, parce que vous imaginez bien que pour interdire une publicité, on va y réfléchir à deux fois. Mais ça montre bien, si vous voulez, l'orientation. Autre moyen qu'a désormais l'ANJ à sa disposition, il y a une obligation nouvelle sur les opérateurs de jeux qui est d'identifier et d'accompagner les joueurs problématiques. Donc ça, c'est nouveau, et on est en train de travailler à travers un outil de conformité un peu nouveau qui s'appelle un cadre de référence sur l'addiction. En train de travailler sur la manière, si vous voulez, quelle est la boîte à outils, en fait, qu'on peut proposer aux opérateurs de jeux pour savoir, dans le fond, comment repérer ces joueurs et comment les accompagner.
Oui, je suis d'accord. Et puis, à partir de quand, quoi, combien est-on considéré comme dépendant ?
Alors, c'est une question qui, évidemment, est très difficile. Il y a beaucoup de travaux. Il y a un indice canadien du jeu excessif qui est, d'après ce que je comprends, ma science est assez neuve, je le reconnais, cet indice est quand même relativement accepté dans beaucoup de pays. Et je dirais, il y a, au-delà d'une certaine valeur de cet indice, vous êtes considéré comme joueur problématique. La question est de savoir comment on le repère. Donc, quels sont les critères, soit liés à votre activité de jeu, soit liés à la manière dont vous interagissez peut-être avec le service client d'un opérateur. Les casinos nous disent, mais nous, on connaît nos joueurs problématiques. On les connaît par leur comportement. Donc, si vous voulez, il y a toute une série de critères qui doivent être des critères souples, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'avoir une sorte de grille un peu automatique qui stigmatise.
Non, mais je prends un exemple. Un jour, quelqu'un qui joue aux machines à sous au casino, il peut être considéré, enfin, en tous les cas, par le casino, comme un joueur dépendant. Donc, à ce moment-là, on l'exclut simplement parce qu'il gagne beaucoup. Donc,
gagner n'est pas un signe d'avoir un joueur problématique. C'est, encore une fois, c'est un faisceau de critères. Il n'y en a pas qui emporte l'adhésion. Et encore une fois, ces faisceaux de critères ne sont qu'une indication. Vous voyez, il n'y a pas, d'interdiction automatique en fonction de ces critères. Sûrement pas. Alors, l'autre élément que je voulais porter à votre connaissance, c'est qu'il y a un dispositif aussi d'interdiction volontaire. C'est un dispositif qui existe, qui était aujourd'hui géré par le ministère de l'Intérieur, et je dirais qui était géré dans une inspiration assez régalienne, vous voyez. Ouais. Vous allez voir la police, vous avez un entretien, et en gros,
on vous met sur une liste. Retenez-moi ou je fais un malheur, quoi, c'est
voilà.
Un peu ça. Ouais.
Alors, il se trouve que nous récupérons la gestion de ce fichier à partir du mois de septembre. Et notre idée, c'est de transformer un peu l'inspiration de ce fichier pour en fait un outil à disposition des joueurs pour maîtriser leur offre de jeu. Donc d'avoir un service online, d'avoir un dispositif d'accueil téléphonique permettant de parler aux joueurs. Vous voyez, on est en train de monter ça.
Un peu comme il y a les alcooliques anonymes, là, c'est le même procédé qui est très efficace au demeurant.
Tout à fait.
Oui. D'accord, donc ça, vous allez le mettre en place.
Et on va le lancer, alors je ne veux pas vous donner une date, mais en tout cas, ce sera en septembre.
Oui. Isabelle Fakir-Barretin, il y a quand même un point, parce qu'on sait que vous êtes beaucoup battue lorsque vous étiez présidente de la CNIL, qui avait, sous votre action, avait pris une autre dimension. Donc j'imagine que vous voulez faire la même chose avec l'Autorité nationale des jeux. Mais il y a la question de moyens et puis la question de sanctions.
Bien sûr.
Donc, quels moyens vous disposez?
Alors,
parce que ça fait, vous dites 78%
de moyens,
du périmètre, etc.
Qui ne sont pas encore complètement ajustés à nos nouvelles missions.
D'accord, ok.
Donc, dans le rapport de préfiguration que j'ai rendu au Premier ministre au début de l'année, j'ai souligné ce point en disant que pour être crédible, il fallait effectivement que nous ayons une hausse de nos moyens. Aujourd'hui, les personnels de l'ARGEL étaient de 55. Nous sommes aujourd'hui 59.
Et ça va coûter changer de nom pour 4 personnes.
Bon, ce qui est déjà une petite augmentation. En réalité, ce que nous avons demandé, c'est d'être à 80 d'ici 2 ans. 80, c'est un étiage qui est à peu près comparable à nos homologues européens. Et c'est un étiage qui est raisonnable en termes de digestion progressive de ces nouveaux effectifs. Parce que le challenge aussi, c'est de transformer l'ARGEL en ANJ. Vous voyez,
il y a
un changement de dimension,
il y a
un changement de compétence, il faut que ce soit une autorité qui se numérise beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, on l'a vu pendant le confinement, on doit nécessairement agréger de nouvelles compétences économiques, d'équilibre de filière, de compétition.
Oui, parce que justement, comment en faites-vous? On reviendra sur les sanctions après, mais c'est vrai que l'arme de la sanction est une arme très forte, pour se faire entendre en tous
Bien
les
sûr.
Cas, lorsqu'on est une autorité. Mais il y a la question aussi de quels moyens pour faire des enquêtes. Par exemple, s'il y a des courses truquées, est-ce que ça dépend de vous, ça dépend du PMU, ça dépend de qui, vous voyez,
concernant
de France Gallo
Un exemple, concernant les manipulations sportives, on a un dispositif qui est extrêmement intéressant, qui a été monté depuis plusieurs années, qui est une plateforme nationale qui regroupe tous ceux qui sont intéressés, entre guillemets, par l'intégrité du sport. Donc, il y a à la fois l'ARGEL, il y a la FDJ, il y a les fédérations sportives, il y a les opérateurs en ligne, et toutes ces personnes surveillent, entre guillemets, les paris sportifs. Et lorsqu'il y a, je dirais, un soupçon de manipulation sportive, il y a une alerte qui est partagée entre les membres de cette plateforme. Il y a des équivalents de cette plateforme dans 37 pays européens, et donc une sorte de
enquête. Oui, mais est-ce que vous allez avoir des enquêteurs, vous?
J'y viens. Et in fine, le président de l'ARGEL peut, en cas d'indice grave et concordant, suspendre un pari sur une compétition. Ça a déjà été le cas. Est-ce que nous, on peut envoyer des contrôleurs sur le terrain? La réponse est oui. C'est une des nouveaux pouvoirs de l'Autorité nationale des jeux. C'est d'avoir une capacité de projection sur le terrain. On ne le fera pas tout seul, notamment avec les casinos, notamment sur les points de vente. On va travailler avec le service central des courses et jeux.
Qui dépend
du ministère de l'Intérieur, qui est, je dirais, l'autorité classique de contrôle des opérations de jeu. On va signer, elle est en préparation, une convention avec le service central des courses et jeux pour nous épauler mutuellement sur cette activité. Deuxième possibilité.
Mais qui a autorité? Parce que vous savez, surtout, c'est une très grande direction. Il faut quand même le rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs, c'est une grande direction.
C'est une direction d'une centaine de personnes qui autorise l'offre de jeux dans les casinos, qui évidemment, ce qui est tout à fait important, mais les casinos relèvent de la juridiction de l'ANJ pour ce qui est de la lutte contre l'addiction et de ce qui est de l'équilibre des filières. Donc nous devons travailler ensemble.
Oui, voilà, donc, il faut faire souvent passer le message, c'est pas évident.
Bien sûr.
Là. Surtout lorsque vous les connaissez, c'est pas, ils sont
il
robustes,
on va dire.
Il est
évident qu'il y a un petit changement de culture à opérer entre l'Autorité nationale des jeux et les anciennes autorités de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, mais aussi la direction du budget.
Voilà, oui, direction du budget, et puis il y a Tracfin, parce que là, on a vu le côté les trucages, etc., mais il y a aussi tout ce qui concerne le blanchiment, et pourtant, Dieu sait que c'est compliqué, et là, ça dépend de Tracfin.
Alors, ça dépend de Tracfin. Là aussi, nous avons besoin de coopération. Ouais. L'ancien numéro 2 de Tracfin a rejoint l'Autorité nationale des jeux, et donc va porter au sein de l'Autorité nationale des jeux justement toute cette dimension lutte contre le blanchiment. Et nous avions encore une réunion il y a quelques jours avec la nouvelle responsable de Tracfin pour voir comment travailler ensemble. Si vous voulez, je crois que l'ANJ ne réussira pas seule.
Oui, mais
l'ANJ
c'est
énorme, réussira à condition de nouer avec les autorités publiques des partenariats intelligents où chacun, dans sa sphère de compétences et avec ses spécificités, nous ne sommes pas un service ministériel, nous sommes une autorité administrative indépendante. Donc il est évident que dans certains cas, nous ne serons pas totalement alignés avec les services ministériels.
Non, ça fait j'adore partie. Ça, c'est l'euphémisme.
Bien sûr. Donc, nous devons avoir ce type de collaboration. Nous devons aussi collaborer avec les opérateurs.
C'est des combats que vous avez menés à la CNIL, donc vous savez bien les conduire.
Mais j'insiste aussi avec les opérateurs. Les opérateurs ont aussi un intérêt, et je reviens à ce que vous disiez sur le développement durable et la croissance robuste. Les opérateurs, notre premier travail, c'est de les aider dans leur mise en conformité. Mm-hmm. Parce que dans le fond, c'est bon pour eux. C'est bon pour leur business. Et ça, je crois que c'est un message que moi, j'ai essayé de faire passer à la CNIL, qui a fini par passer. Et je crois que c'est encore plus vrai pour un régulateur sectoriel comme l'Autorité
nationale
des jeux.
Mais par exemple, je parle de sanctions. Est-ce que c'est vous qui allez dire, tiens, un tel casino, moi, je vous ferme parce que il y a eu trop de problèmes. Est-ce que vous avez le pouvoir de fermer ou ça reste le pouvoir du ministère de l'Intérieur ou ça reste le pouvoir de Bercy dès qu'il s'agit de blanchiment?
Ah non, absolument pas. Non, l'Autorité nationale des jeux a un plein pouvoir de sanction.
D'accord.
Sur l'addiction, sur l'offre de jeux. Concernant le blanchiment, je dirais que la situation est un peu différente puisqu'il y a une commission nationale des sanctions qui est une commission, présidée par Francis Lamy qui, elle, est compétente en matière d'infraction à la lutte contre le blanchiment.
Ouais. Est-ce que, c'est, à votre avis, les jeux vont prendre une ampleur aussi importante qu'en Grande-Bretagne, par exemple, en France?
Je crois que...
Et c'est pour ça qu'on vous a confié cette mission.
Tout le monde est intéressé par les jeux. Je veux dire, c'est encore une fois quelque chose qui parle à tous les Français. On voit qu'il y a une perméabilité aussi croissante entre le jeu d'argent, le jeu vidéo, le e-sport. C'est très intéressant ce qui s'est passé pendant le confinement. Toutes ces activités, compétitions virtuelles, des Formule 1, avec des vrais pilotes de Formule 1 qui ont interagi avec des internautes. Voyez, je veux dire, il y a un rapprochement de ces différents univers. Donc, c'est sûr que ce secteur va se développer. L'Autorité nationale des jeux n'a pas toutes les réponses, bien sûr, et n'a pas toutes les compétences pour réguler l'ensemble du périmètre des jeux. Mais, et là, je veux dire, au-delà des jeux d'argent stricto sensu. En revanche, je pense que nous avons à veiller à la cohérence de tout ça et à la protection des joueurs, voyez. Donc, oui, je crois que c'est un secteur qui va se développer. L'exemple anglais est un exemple qui, d'après les premiers contacts, encore une fois, que j'ai avec mes homologues, montre que le jeu totalement débridé, finalement, n'est pas bon. Se retourne. Hein. Il y a une commission bipartisane en Angleterre pour revoir la loi sur les jeux. Il y a une montée des opinions publiques en Angleterre sur l'addiction. Donc, ils se rendent compte que finalement, le modèle français n'est peut-être pas si mauvais que cela.
Oui, c'est toujours la question un peu du contrôle que nous, Français, on a par rapport à une version plus libérale d'autres pays comme les pays anglo-saxons. Donc vous retrouvez les mêmes combats que vous avez conduits lorsque vous étiez à la tête de la CNIL. Merci beaucoup,
en tous les cas,
d'être venu ici nous expliquer les enjeux parce qu'on voit bien que c'est de plus en plus significatif et important. Merci beaucoup Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de l'Autorité nationale des jeux, était donc notre invitée dans le RH. Voilà, bonne journée. Nous, on se retrouve bien avec joie demain matin, 8h15. Je recevrai Agnès Pannier-Runacher et puis on se rejoint sinon pour le RH. Bonne journée.